Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, quand l'indifférence tue, un homme est mort en plein Paris sans que personne n'intervienne.
Oui, la semaine dernière, le photographe René Robert, 84 ans, est tombé dans la rue. Il est resté des heures conscient sans que personne ne l'aide. À la une également, le biocarburant superéthanol cartonne depuis la flambée des prix de l'essence. Deux fois plus de boîtiers installés en un an et 100 euros d'économiser en un mois seulement pour cet utilisateur qu'Artel a rencontré. Dans ce journal également, quand les profs retraités reprennent du service face à la flambée Omicron. L'inquiétude en Syrie où Daesh a repris le contrôle en partie d'une prison qui détient 5000 djihadistes. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est aussi Michel Polnareff de retour. Il s'est confié. Grande exposition à Paris à partir du 5 mai. Il donnera pour l'occasion des concerts depuis chez lui en lien direct avec ses fans.
La politique, Olivier Post.
Les jeunes et leur rapport au travail, tout change. Mais y a-t-il un candidat que ça intéresse?
Vos explications dès la fin du journal.
RTL Matin.
Voilà donc cette affaire terrible qui nous renvoie tous à ce que nous aurions fait. Mardi dernier, le photographe René Robert est mort. Il avait 84 ans. Il est mort dans la rue après être tombé. Personne ne s'est arrêté. Personne ne l'a aidé. Quand un SDF finalement est venu le voir, il était déjà trop tard, Sébastien Rouxel.
Il est 21h30 ce soir-là lorsque René Robert sort de chez lui pour marcher. Est-il alors victime d'un malaise ou bien trébuche-t-il? Il s'écroule en tout cas devant la porte ocre du numéro 89. Sans pouvoir se relever, raconte son ami, le journaliste Michel Montpontet.
Il est resté seul, par terre, conscient, au moins pendant les 5 ou 6 premières heures, dans le quartier, un des quartiers les plus fréquentés de Paris, sans que personne ne juge bon d'intervenir. Il n'aurait jamais dû mourir.
C'est un sans-abri qui finit par prévenir les pompiers vers 5h30 du matin, mais il est trop tard. Fabienne, une SDF installée à deux pas d'ici, peine à y croire.
C'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
Sous le choc, mais pas vraiment surprise, elle dénonce l'indifférence quotidienne des passants.
Tu peux même te faire agresser, te faire traîner, il n'y a personne qui bouge. Personne ne va aider qui que ce soit ici.
Michel Montpontet, lui, espère que ce drame permettra au moins de changer les choses.
Quand nous voyons quelqu'un d'inanimé, quelqu'un de couché, eh bien essayons de ralentir, essayons de regarder s'il respire, parce que ces quelques secondes-là peuvent sauver une vie.
Son espoir désormais, retrouver le sans-abri qui est intervenu pour lui dire toute sa gratitude, même si son ami ne s'en est pas sorti.
Récit ce matin de Sébastien Rouxel pour RTL. À Toulouse, l'agence régionale de santé ouvre une enquête après l'évasion de deux meurtriers qui étaient internés dans l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand. Le premier, surnommé le cannibale des Pyrénées, on en avait parlé, avait failli faire une nouvelle victime au cours de ses presque 7 heures de cavale. Le deuxième s'était enfui dimanche sans provoquer heureusement aucun incident avant d'être repris.
Il est 7h03, le sujet s'impose depuis des semaines hein, avec les records de prix à la pompe.
1,65€ en moyenne pour le litre de diesel, 1,78€ pour le samplon 98. Face à la flambée, la cote du superéthanol ne cesse également de grimper. Plus 33% de ventes en plus d'un an. Il faut dire que les économies arrivent vite, Christophe Bourreau.
En parcourant 22 000 km par an, le budget carburant de Michel a littéralement explosé, plus 20% ces derniers mois. Ce retraité a donc décidé en fin d'année dernière d'équiper sa voiture, une Toyota RAV4, d'un boîtier pour accueillir de l'E85 et déjà, il s'estime gagnant.
J'ai fait 3 fois le plein et sur une centaine de litres, j'ai économisé 100 euros déjà, vous voyez.
Pourtant, l'E85 est plus gourmand et fait consommer environ 20% de plus. Mais Michel, lui, n'a vu aucune différence.
Je ne conduis pas sportif, je conduis pépère. Je n'ai noté aucune, mais alors vraiment, aucun accroissement de la consommation.
Et malgré le prix d'installation du boîtier, il pense rentabiliser son achat rapidement.
J'en ai eu pour 880 euros. Vu que j'économise pas loin d'un euro par litre, à la moitié de l'année, j'aurais largement rattrapé le coût de mon truc.
C'est donc tout bénéfice pour ce gros rouleur qui, en plus, en passant à l'E85, a bénéficié de la gratuité de la carte grise.
Merci beaucoup, Christophe Bourreau. Le gouvernement réfléchit d'ailleurs à un nouveau geste en jouant sur les forfaits kilométriques pour le coup, pour aider les gros rouleurs qui choisissent les frais réels sur leur déclaration d'impôt. 2 millions de personnes pourraient être concernées. L'exécutif exclut en tout cas un nouveau chèque carburant.
Face à la flambée Omicron, l'école a besoin de renforts.
Oui, de plus en plus de profs sont absents, par exemple dans l'académie de Versailles, qui a donc fait venir 200 recrues depuis le mois de janvier, parmi lesquels des étudiants, mais aussi une dizaine d'enseignants retraités. C'est le cas d'Evelyne, 65 ans, qui a donc le repris le chemin de son école, en l'occurrence Marie Verrier.
Elle a signé un contrat de 3 mois, renouvelable jusqu'à l'été si nécessaire. Mais Evelyne n'aurait pas accepté d'aller n'importe où. Elle est de retour dans l'école où elle enseignait avant de prendre sa retraite il y a 1 an et demi.
Ça, c'était la condition sine qua non, oui.
Se retrouver dans son élément.
J'ai des enfants dont j'ai eu les frères et sœurs il y a quelques années. Donc je connais un peu les familles. Je suis un peu à la maison, à l'école.
La voilà donc en charge d'une classe de CP qui n'avait pas de remplaçant.
J'étais contente de revenir épauler un peu l'équipe. Pour moi, c'est un petit peu une évidence. Il y avait vraiment un cruel besoin.
Son salaire sera versé en plus de sa pension de retraite. Mais le Covid, ça ne lui faisait pas peur?
Ah, bien sûr que si. Je me suis dit, normalement, avec le vaccin, plus les contaminations passées, je devrais peut-être résister. Ouais, enfin, je croise les doigts.
Evelyne a passé tout le week-end à préparer ses cours.
Je suis très attachée à l'école, en fait, à l'enseignement. Mais en même temps, je n'ai pas l'intention de revenir éternellement. Hein. C'est bien juste jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Après le Covid, dit-elle, l'éducation nationale en manque de profs devra s'attaquer sérieusement à la crise du recrutement.
Merci beaucoup Marie Guerrier pour RTL. Emmanuel Macron, lui, poursuit son déplacement aujourd'hui en Haute-Vienne sur le thème de la ruralité. Hier en Creuse, répondant à des étudiants, il a affirmé qu'il n'avait pas l'intention d'augmenter les tarifs d'inscription à l'université, affirmant avoir été mal compris sur ce sujet la semaine dernière.
7h06, l'actualité internationale. Dans un instant, la très grande inquiétude en Syrie, où l'État islamique a repris en partie le contrôle d'une prison où s'entassent 5000 djihadistes. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. 5000 djihadistes de Daesh risquent de s'évanouir dans la nature en Syrie.
Oui, Daesh mène depuis jeudi dernier sa plus grande offensive depuis la chute de l'État islamique il y a 3 ans. Dans le nord de la Syrie, les combattants ont attaqué une prison où sont effectivement gardés 5000 djihadistes. Il se trouve, Émilie Beaujard, que vous aviez pu vous rendre dans cette prison en février 2020 et les Kurdes avaient prévenu des risques de ne pas pouvoir tenir.
Oui, les Kurdes avaient alerté à de nombreuses reprises. Depuis 3 ans, ils demandent au pays de rapatrier leurs djihadistes hommes car ils n'ont pas les moyens de les surveiller et encore moins de les juger. Tous les pays ont pour l'instant refusé. Résultat, 5000 djihadistes sont donc entassés dans cette prison d'Assaqeh, cible de choix pour Daesh. Voilà ce qu'en disait le gardien de cette prison quand nous l'avons rencontré en février 2020.
5000 prisonniers, ça n'est pas rien, surtout qu'on parle de djihadistes qui ont combattu jusqu'à la fin. Ils sont très dangereux. Il y a des attaques pour tenter de les libérer, nous devons être très vigilants. D'autres prisons ont déjà été attaquées dans le nord, et puis les prisonniers, à la moindre opportunité, ils essaient de s'échapper.
Cette fois, la vigilance des Kurdes n'a pas suffi. Les combattants de Daesh ont pris position dans une partie de la prison et on ne sait pas encore combien de détenus se sont échappés.
Précision d'Émilie Beaujard, et selon les derniers chiffres des autorités françaises obtenus par RTL, il y a actuellement 296 mineurs, enfants de djihadistes retenus au Kurdistan syrien, et 190 adultes, dont 123 femmes.
On en vient au sport. La Coupe d'Afrique des Nations a tourné au drame hier au Cameroun.
Oui, juste avant le coup d'envoi du match entre le Cameroun et les Comores, il y a eu une bousculade à l'entrée du stade de Yaoundé qui a fait au moins 8 morts. Et vous êtes sur place pour RTL, Clément Terra.
Des dizaines de personnes qui tombent, des gens piétinés, des enfants, des femmes, des hommes transportés dans l'hôpital le plus proche, très vite débordés. Aux abords du stade, la situation est chaotique à quelques minutes du coup d'envoi. Impatient devant la lenteur du processus pour accéder aux tribunes, il faut montrer son pass sanitaire, faire biper son ticket au portique. Certains se mettent à pousser en espérant rentrer plus rapidement. Un supporter camerounais raconte avoir eu la chair de poule face à l'horreur de la scène. Il remet en cause les conditions d'accès. Dans ce stade, il n'y a qu'une seule entrée pour accueillir des dizaines de milliers de spectateurs.
Et alors, malgré ce drame, le match n'a pas été annulé?
Et non, le match a bien eu lieu dans son intégralité. Aucun message n'a été annoncé pendant la rencontre malgré le bruit des ambulances à l'extérieur. Les premières rumeurs sur le drame sont arrivées en fin de match seulement. Et pour le gouverneur de la région centrale du Cameroun, Nasseri Paul Biya, le bilan des victimes devrait encore s'aggraver.
Les précisions de Clément Théara à Yaoundé pour RTL, le Cameroun qui s'est imposé finalement 2-1 face aux Comores. À l'Euro de handball, les Bleus y croient à nouveau. Ils ont battu le Monténégro 36-27 et peuvent croire à nouveau en une qualification pour les demi-finales. Il faudra pour cela assurer au moins un match nul demain face au Danemark. À l'Open d'Australie, en ce moment, Rafael Nadal mène 2-7-1 contre le Canadien Chapovalov. Mais on attend tous aujourd'hui le match entre Gaël Monfils et l'Italien Berrettini. Ce sera sera à partir de 11h tout à l'heure, heure française.
Et pour finir ce matin sur RTL, Michel Polnareff parle. On va remarquer, on préférait qu'il chante, mais les deux, ça nous convient.
Il va faire les deux. On n'avait pas entendu, effectivement, Michel Polnareff depuis plus de 3 ans. Et la sortie de son 10e album, enfin. Eh bien, enfin, on va pouvoir le revoir chanter live, Yves, concert à distance depuis chez lui. Ce sera à l'occasion de cette exposition Polnareff au Palace à Paris à partir du 5 mai.
C'est pas le même combat. C'est d'être là sans y être. Mais en même temps, jamais le public aura été aussi prêt. C'est assez intéressant comme exercice. Les Polnareff, c'est une expérience. Ce qu'on a prévu, c'est un piano-voix à distance. Là, c'est pas du streaming. Hein. C'est vraiment en direct. Oui, ce sera de mon salon, absolument. Une durée de 45-50 minutes, un truc comme ça. 360 degrés de chez moi, dans les 360 degrés du Palace. La technique doit être très, très, très subtile parce qu'il faut effectivement que je sois loin, mais prêt, conscient des réactions et que je puisse jouer avec le public parce que j'adore ça de toute façon. Et c'est ça qui est génial. C'est pas du tout que le public sera des cobayes. C'est une expérience qu'on va partager. C'est révolutionnaire.
Est-ce que ça veut dire que ça met un terme à votre carrière scénique, au concert live, à vous voir dans une vraie salle, Michel ?
Non, pas du tout. Pour l'instant, j'ai le focus sur ce truc-là et je pense pas au reste. Et que je veux que ce soit à la hauteur de ce qu'on espère.
Voilà les confidences de Michel Polnareff en exclusivité pour RTL. Il s'est confié donc à Stephen Bellery et on y reviendra largement tout à l'heure à 9h dans Laissez-vous tenter.
Absolument. Les courses, elles ont lieu à Cannes-sur-Mer aujourd'hui.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, le 11, le 6, le 8, l'As, le 4 et le 15. La dernière minute, c'est le 6, Dragonnet.
Merci beaucoup Olivier Bois, il est 7h13.